Trois petits points.
Récit de vie.
Extra ordinaire. Bonjour Annette Carco, je suis ravie de vous rencontrer. Vous avez donc un témoignage de vie à nous raconter, un épisode qui a été sûrement, je pense, effectivement un peu difficile à vivre. On vous écoute. D'abord, je vais peut-être vous demander de vous présenter un petit peu.
Oui, bonjour. Je suis maintenant installée en Creuse depuis une dizaine d'années, mais je suis née en région parisienne, à Courbevoie. J'ai vécu toute ma vie en région parisienne, à Paris. J'y ai fait mes études, j'y ai travaillé, j'y ai grandi. Je m'y suis mariée, j'ai eu une fille, etc. Et je venais en Creuse 15 jours par an dans la maison familiale de mes arrière-grands-parents sur la commune de Bétette. Et au fur et à mesure des années et du temps qui passe, je me suis attachée énormément à la Creuse. De plus en plus, tant et si bien que j'ai choisi de demander une mutation pour venir m'installer non loin d'ici, donc sur Montluçon. Et je me suis installée définitivement dans cette petite maison de campagne, en haut d'un chemin très isolé, au milieu de la Creuse, qui peut paraître surprenant pour une Parisienne, mais je me dis que tout arrive à la bonne époque, au bon moment, au bon âge, et qu'aujourd'hui, quand on dit que je suis creusoise, j'en suis très fière.
Eh bien, merci. Donc, tout arrive. Et le 26 juillet 1995, je crois qu'il est arrivé quelque chose.
Absolument. Ce 26 juillet 1995, donc je suis à Paris, je travaille à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Mon mari travaille à Paris, au sud de Paris. Nous sommes en été, fin juillet, août à Paris, c'est le moment où tous les Parisiens profitent de sortir, on trouve des places à se garer, on a des animations diverses et variées. Et moi, j'ai pour habitude de terminer tard mon travail, mon mari aussi. Et ce 26 juillet, c'est même un jeudi, je me rappelle très bien, il m'appelle à mon bureau et me dit « Émilie, notre fille, est en garde chez ses grands-parents à Guéret. Elle a 8 ans. » Et il me dit « Écoute, on est tous les deux. Si on rentrait plus tôt ce soir, je dis « Ok. » Il est 17h, 17h15, je range mes affaires. On se donne rendez-vous 17h30 au RER Châtelet. Donc, où le RER A rencontre le RER B. Donc, 17h30, pas de problème. Donc, je range toutes mes affaires. Je descends de mon bureau du premier étage au rez-de-chaussée. Je dis au revoir à tout le monde. Et je me retrouve donc sortie de l'hôpital de l'Hôtel Dieu sur le parvis de l'Hôtel Dieu face à Notre-Dame. Et je revois encore, j'ai des images qui se sont figées, notamment deux petites filles qui jouent à l'élastique. Notamment une petite fille que je revois comme si c'était hier, un peu blonde, châtain très clair, sa petite coupe au carré, avec une petite robe, un petit gilet vieux rose, et qui joue à l'élastique avec une amie. Ça me fait penser à ma fille, je trouve ça joli, et je continue de marcher en direction du RER Saint-Michel, ligne B. Et puis, j'arrive au bout de 150-200 mètres, il fait beau, mais pas trop chaud, c'est une journée agréable. Et je vais pour descendre dans le métro et je me dis, mince, il est vrai, j'ai encore oublié, depuis la semaine dernière, j'ai fait un petit mot à mon neveu, Jérémy, qui est en colonie de vacances, qui a 10 ans, et qui attend ma lettre, et elle est encore dans mon sac, je ne l'ai pas postée. Oh, je dis, il est quoi? Il est 17h15, 17h20... c'est pas grave, je suis pas à 5 minutes près, j'ai le temps de retourner mettre au coin de l'Hôtel Dieu face à Notre-Dame cette lettre, et à 3 minutes près, c'est bon, il va m'attendre au Châtelet. Je fais donc le sens inverse, 150-200 mètres, je passe l'entrée de l'Hôtel Dieu, je dépose ma lettre, je suis toute contente de l'avoir fait d'ailleurs, je reprends ma petite marche. Je revois ces deux petites filles qui jouent toujours à l'élastique, sous le soleil, sur la place, le parvis. Et j'arrive dans le RER, et là, cette saison-là, c'est vrai, à ces heures-là, pas beaucoup de monde, donc je descends les escaliers. Et qui sait, à Saint-Michel, il y a beaucoup d'escaliers, puisque le RER est sous la Seine. Donc c'est assez profond, il doit y avoir au moins 4 ou 5 escaliers à descendre. Il n'y a personne, je descends tranquillement et puis je suis plus jeune, je suis alerte, donc je dois descendre une marche sur deux. Bref. Et puis j'arrive sur l'entrée du RER où il y a les machines pour prendre les tickets, où il y a le passage, je passe avec mon ticket, à l'époque ma carte orange. Je passe la barrière et là j'arrive sur le quai, après 50 mètres peut-être, et je vais rentrer sur le quai. Et à cette entrée-là, sous cette arche qui conduit sur le quai, je suis comme tétanisée et j'entends un bruit comme le bruit d'un métro qui roulerait à toute vitesse mais sans s'arrêter sur le quai, ou quelque chose qui va très vite, qui fait un bruit très fort. Et là, là, c'est comme si on me paralysait. D'abord, j'ai ce souvenir-là de ne plus bouger. Ça n'a pas duré sans doute longtemps, mais j'ai ce bruit qui est dur, qui pour moi me semble long, mais sans doute peut-être pas une minute, mais je ne sais pas. J'ai pas conscience du temps. Et là, après, donc c'est ce qu'on dit, c'est l'onde de choc. Et après, ce qui reste marqué en moi, c'est ce silence qui me semble interminable. Ce silence, je ne bouge pas. Et après, j'entends des gémissements, des bruits. Après, j'entends des pleurs. Et un monsieur qui est sans doute devant moi, qui se retourne. Et je me rappelle, je le dis parce que c'est la réalité. Ce monsieur a peut-être l'âge de mes parents. Il est d'origine maghrébine. Et ce monsieur, il va me tenir par les épaules et me dit « Sauve-toi !» Il y a une bombe qui a sauté. « Sauve-toi !» Et je ne sais pas, je sais qu'il m'a dit ça, mais je ne réalise pas l'histoire de la bombe ou quoi que ce soit. Je sais qu'il m'a dit me sauver, donc c'est dangereux, donc je remonte tous ces escaliers. Sans penser que derrière moi, il y a d'autres personnes. Mais la seule chose qui arrive dans mon esprit à ce moment-là, c'est de me dire je suis hospitalière. Il faut que je prévienne les gens à l'hôpital, parce qu'il doit y avoir des blessés. Et même quand j'en parle, j'en ai encore la chair de poule, bien des années plus tard. Et donc je vais me mettre à courir, je ne me rappelle pas si j'ai couru, si j'ai marché, mais j'ai dû courir entre la sortie de Saint-Michel jusqu'à l'entrée de l'accueil de l'Hôtel Dieu. Et je revois encore ces petites filles qui jouent à l'élastique. Je cours, je rentre, et donc j'ai eu un problème à mes oreilles, mais moi mes oreilles ne saignaient pas, j'entendais plus grand chose. Et je vois cette dame de l'accueil et je lui dis « ça a sauté en bas ». Elle ne comprend pas, je dis « ça a sauté le métro ». Et après, d'autres gens étaient derrière moi. Et cette dame qui est à l'accueil, elle est aussi figée, elle ne comprend pas, c'est même pas ce qu'elle doit faire. Et puis, à partir de là, va commencer une soirée interminable, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'aide aux victimes. Tout ce qui s'est mis en place suite aux attentats, c'était le premier attentat du genre, où ce 26 juillet 1995, cet attentat terroriste a fait sauter une bombe de gaz remplie de clous, juste à l'arrivée du RER sur le quai, ce qui a tué une jeune fille de 22 ans que je connaissais très bien, qui travaillait au deuxième étage de l'Hôtel Dieu, mais ça je le saurai plus tard, et qui a fait nombre de blessés, et ce fut le premier attentat d'une longue liste, évidemment, que l'on connaît, en 1995. Et donc là, mon seul objectif est de rentrer chez moi, le plus tôt possible. Donc, rentrer chez moi, il n'y a plus de métro. Le temps que je sorte de là, j'entends la police, les pompiers. Je sais qu'à côté de Gibert Jeune, là où on vend les livres neufs et d'occasion, il y a un grand, grand café Saint-Michel qui va servir d'hôpital de fortune, si on peut dire, pour mettre les blessés. Et moi, ma seule idée, c'est de repartir vers la gare Saint-Lazare pour prendre mon train et rentrer chez moi. Et donc je vais partir à pied, je me revois, j'ai pris le pont du Châtelet et je vais partir à pied vers la gare Saint-Lazare. Et mon mari, lui, m'attend à Châtelet. Il n'a aucune information. On leur dit la ligne B est coupée, point. Tout le service est interrompu. Donc lui aussi va aller à pied vers la gare Saint-Lazare, mais on ne va pas se retrouver parce que Paris, ce soir-là, c'est un imbroglio de gens qui errent, qui cherchent un transport pour rentrer chez eux sans savoir ce qui se passe. On n'a aucune information, bien sûr. Et donc je vais monter jusqu'à Saint-Lazare. Saint-Lazare, pareil, les trains sont bloqués, donc je n'aurai un train que très très tard. J'ai dû rentrer chez moi à 23h. Et entre-temps, ma petite fille, Émilie, qui était à Guéret, chez ses grands-parents, Elle regarde la télé, elle regarde Antenne 2, Hélène et les garçons, tous ces petits feuilletons-là. Et elle voit flash, une bombe, un attentat terroriste à la station Saint-Michel RERB en bas de l'Hôtel Dieu. Et elle, Émilie, c'est que quand elle n'est pas en Creuse, chez ses grands-parents pour les vacances, elle vient avec le RER avec moi, car elle est inscrite à la garderie dans le quartier face à Saint-Michel, dans le 5e arrondissement. Et donc, elle dit, elle se met à crier sur la terrasse, que m'expliqueront mes parents. Il y a un attentat chez maman, ça a sauté. Mes parents donc s'inquiètent, tout le monde appelle partout, tout du moins à mon travail, à la maison, mais personne ne répond. Et ils n'ont aucune information, ils n'en auront que le soir vers minuit. Et quand je suis rentrée, mon mari est rentré, que nous avons regardé les informations, je me suis dit, ainsi va la vie, ainsi est ainsi faite la vie. Ce matin, je suis partie travailler. Ce soir, j'aurais pu être sur un brancard. Et grâce à une petite lettre qui m'a permis de faire 200 mètres, aller 200 mètres retour, donc 400 mètres au total, j'ai peut-être sauvé ma vie. Donc ça reste assez incroyable. Mais je me dis, il faut toujours croire en la vie, effectivement. Et d'un événement qui peut-être était tracé, écrit sur mon chemin de vie, un petit détour a suffi pour me sauver la vie. Mais cet événement est gravé et c'est vrai, sans aucun jugement, sans rien sur ni les attentats, ni tout ça, je me dis, notre vie peut être bouleversée par un événement hors du temps, hors de nos champs de compétences, du jour au lendemain. Et mon Dieu, profitons de la vie. Alors, le lendemain, j'aurais pu aussi, comme toute personne qui a vécu des événements du genre, me dire je ne reprends pas le RER ou le métro. Et je me rappelle que mon papa, mes parents étaient parisiens aussi, et m'ont dit, ma fille, il faut prendre le mal par le mal. Donc demain, surtout, tu reprends le RER, tu reprends le métro, tu ne prends pas le bus. Il ne faut rien changer à ta vie. Il ne faut justement pas contrecarrer ta vie à cause d'un événement de ce style. Non, il ne faut rien changer à la vie. Il faut se dire que c'est malheureusement un événement exceptionnel, exceptionnellement dramatique, mais il faut rester droit dans ses deux jambes, droit dans sa tête, dans son corps et dans son âme, et continuer d'avancer.
Votre neveu, oui. Du coup, oui. Quand il a reçu cette lettre, et que, évidemment, il a appris les circonstances...
Mais c'était un petit garçon, il n'a pas fait cas. Ses parents, après, ont fait cas, se sont dit, c'est quand même assez incroyable, quoi, cette histoire. Il n'a pas fait cas, lui, il avait 10 ans, il a reçu sa petite lettre et tout. Mais le peu de personnes à qui je l'ai raconté, ça semble incroyable, quoi. Incroyable. Je dis toujours, quand je suis arrivée, je me revois, c'est impressionnant. À la première marche, voire j'ai peut-être franchi la première marche, j'étais sur la deuxième, et je me dis, ah non, depuis la semaine dernière, donc on est jeudi. J'ai dû la faire peut-être le vendredi, ça fait une semaine, j'ai cette lettre pour Jérémy, parce que ça a toujours été mon défaut de garder des lettres et de pas les poster le jour même. Et je me dis, c'est pas possible, sa colonie va terminer, il n'aura pas ma lettre. Et je me dis, non, il faut que j'aille la porter, comme si une petite voix intérieure me disait, si tu veux terminer ta journée correctement, va déposer cette petite lettre dans la boîte aux lettres. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a sauvé la vie, très certainement. Parce que l'arche par lequel je devais passer, j'arrivais à la hauteur où la bombe a sauté. Hein. Voilà. C'est impressionnant. Hein. J'en ai la chair de poule à chaque fois que j'en parle pour dire que dans le destin, c'est, je ne sais pas si on peut dire c'est bien, c'est pas bien. C'est assez incroyable, mais c'est quand on analyse les événements à contre-coup, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et, voilà. Et c'est que c'était pas mon heure, c'était pas le jour, c'était pas le moment. Et sans doute, il fallait aussi que de cet événement, j'en garde quelque chose. De me dire que c'est pas parce qu'on prend le métro tous les jours que forcément on risque des attentats. On peut avoir une personne qui, dans sa vie, ne va prendre le métro qu'une fois dans toute une année ou en 5 ans. Et malheureusement, c'est le jour où ce métro va sauter. Je veux dire que rien n'est écrit dans le marbre. Et que, justement, tout peut arriver. On ne peut pas présager de ce qui peut arriver. Hein. Je ne sais pas, n'importe quoi. C'est comme des gens qui doivent prendre une voiture. La voiture va tomber en panne à l'endroit même où, s'ils avaient fait 100 mètres de plus, il y a eu un carambolage avec des morts, on ne sait pas. Voilà. Et c'est de dire que il y a une porte du destin, une petite étoile qui brille et qui dit non, c'était pas ton heure, pas ce jour-là. Mais qui me dit, ben, ce 26 juillet 1995, garde-le en souvenir. Si un jour quelque chose ne t'arrive pas, quelque chose t'arrive, c'est que c'est l'heure, c'est pas l'heure, voilà. Mais quand c'est pas l'heure, c'est qu'il faut aussi prendre soin de sa vie. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est comme ça que je le vois aussi.
Eh bien, merci Annette. Vous voulez peut-être le dédicacer. Enfin, vous ne l'avez peut-être pas raconté à beaucoup de personnes, cet épisode, parce que vous l'avez peut-être gardé en mémoire et sans forcément en faire état auprès de peut-être de personnes qui vous sont chères. Enfin, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant de dédicacer aujourd'hui, justement.
Eh bien, je dirais que si j'ai une dédicace à faire, ça serait de dire que une lettre et quelques mots m'ont sans doute sauvé la vie. Donc, vraiment, ne pas oublier ce petit message qu'il suffit d'un rien pour changer notre chemin de vie.
Donc, à toutes les personnes, finalement, qui peuvent nous écouter aujourd'hui.
Absolument, pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un événement dont je parle excessivement peu, mais qui reste marqué au fond de moi, c'est sûr.
Merci, merci Annette, merci beaucoup pour ce témoignage et la confiance que vous nous accordez.
Merci Laurence, merci à vous et merci à tous les auditeurs de Radio Vassivière.
Trois petits points.
Récit de vie.
Récit de vie.
Extra.
Extra.
Ordinaire.
Ordinaire.